La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, bienvenue. Vous avez la parole pendant une heure. Dans la seconde partie de l'émission, nous lancerons le débat sur le nouveau gouvernement en Centrafrique. Fallait-il accorder plus de postes aux anciens rebelles? Quel avenir pour la justice dans ce contexte? N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler pour participer tout à l'heure. Avant cela, comme chaque jour, nous répondons à vos questions sur l'actualité. Et pour commencer, nous allons revenir sur un sujet qui tient toute l'Europe en haleine depuis des semaines, c'est le Brexit. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne.
On vous écoute.
Oui, les députés britanniques ont adopté un amendement qui leur a permis de prendre le contrôle sur l'agenda du Brexit. On parle de 8 propositions. Je veux savoir, dans ces 8 propositions, lesquelles sont les plus susceptibles, les plus importantes, et dans quelle mesure ce vote peut avoir un impact sur Theresa May et sur le Brexit, en ce sens que le vote est dit indicatif.
Oui, alors les députés, effectivement, ont repris la main cette semaine. Pour en savoir plus, on rejoint tout de suite Anis El Jabri en direct de Londres. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont effectivement les options qui ont les faveurs des élus britanniques pour l'instant ?
Alors d'abord un petit point, avec 8 options et un Parlement qui n'a plus vraiment de direction politique, c'était de toute façon impossible d'arriver à une majorité sur un point précis. Alors bien sûr, ça n'a pas empêché la presse britannique d'ironiser, les tabloïds particulièrement. Le Sun dénonce ce matin une farce intégrale, le Daily Express une série décousue de votes qui n'a résolu aucun problème. Bon, les analystes vont vous dire que c'est quand même un petit peu plus nuancé parce que deux options se sont détachées. En plus, avec un certain succès, ces deux options ont eu davantage de voix que ce qu'a pu obtenir Theresa May avec l'accord signé avec l'Union européenne. Alors, ces deux options, eh bien, les voici. Il y a d'abord le second référendum. C'est l'option qui a recueilli le plus de voix. Il y a aussi le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union douanière. C'est le résultat qui est le plus serré, 8 voix d'écart seulement. Ce sont ces deux options, un véritable cauchemar pour les Brexiteurs. D'ailleurs, ces Brexiteurs, pour la petite histoire hier, eh bien, ils s'en est trouvé quand même 105 irréductibles à voter pour le départ de l'Union européenne à la date prévue. C'est quand même le 29 mars, je vous rappelle que c'est demain soir.
Il va rester effectivement quelques petits détails à régler manifestement. Notre auditeur Gilles avait une autre question à Anissa. Ces votes du Parlement britannique sont indicatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraignants. Quelles sont les conséquences possibles à la fois sur le Brexit et sur l'avenir de la Première ministre ?
Bon bah zéro hein, si on en croit la presse sévère, on vient d'en parler, ou bien tout simplement le ministre du Brexit dès hier soir, il a eu ce commentaire. On voit bien qu'il n'y a aucune solution alternative à l'accord signé par la Première ministre avec l'Union européenne. Bon, en fait, rien ne dit que tout ça va s'arrêter là. C'est vrai que on l'a compris, hein, le calendrier est très évolutif, mais les débats doivent reprendre lundi. Et cette fois, ce que veulent les députés, c'est s'exprimer sur un éventail d'options qui seraient plus resserré, 2, 3, peut-être 4 maximum. Autrement dit, eh bien, il serait tout à fait possible que cette fois-ci, une vraie majorité sur une piste se dégage. Alors vous me dites, et vous avez raison, une majorité en quelque sorte, pourquoi faire, parce que ces votes sont indicatifs. Ça reste quand même plus compliqué. On en parlait hier matin sur cette antenne. Une démarche comme celle qu'est en train de faire le Parlement, eh bien, c'est rarissime dans l'histoire de la démocratie britannique. C'est donc symboliquement très fort. Ça a un poids politique. C'est compliqué de l'ignorer. Et puis le pays, on ne sait pas très bien où il en sera dans quelques heures. C'est une vraie course contre la montre. Mais la Première ministre essaie à tout prix de faire adopter ce fameux accord signé avec l'Union européenne. Et si elle échoue, alors qu'elle est allée jusqu'à mettre son départ immédiat dans la balance, eh bien on aura à la tête du pays une première ministre officiellement en sursis, sans solution. C'est à ce moment-là que le Parlement peut vraiment reprendre la main.
Merci beaucoup Anissa El Jabri en direct de Londres avec Marc Fichet pour les moyens techniques. Merci à Gilles de nous avoir posé ces questions. La prochaine question nous vient du Togo de Dapaong. Bonjour Radio.
Bonjour Anne, bonjour à toute la charmante équipe d'appel sur l'actualité.
Mais c'est vrai que cette équipe est charmante, vous avez raison de le souligner. Vous vouliez nous parler de la Thaïlande?
Tout à fait. La Thaïlande a organisé les premières élections législatives depuis le coup d'État militaire de 2014. L'opposition dénonce des élections truquées. De quelles preuves dispose-t-elle à ce sujet ?
Alors, ces élections ont eu lieu dimanche dernier. Vous y étiez pour RFI, Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour.
Très rapidement, après ces législatives, on a entendu les premières accusations de fraude. Sur quoi s'appuie l'opposition ?
Les critiques se concentrent sur la commission électorale et sur son attitude au soir des élections parce que les bureaux de vote étaient ouverts de 8h à 17h. En fin d'après-midi, le dépouillement commence. On commence à compter les sièges de députés petit à petit et tout à coup, la commission électorale décide d'interrompre son travail pour une raison inconnue et de reporter la publication des premiers chiffres officiels au lendemain. Des dizaines, peut-être des centaines de journalistes ont tenté de joindre les responsables de cette commission électorale pour avoir une explication. Ils n'ont jamais répondu, ils n'ont jamais pris la parole, mais ils ont laissé passer une nuit entière avant de reprendre leur travail et de reporter de nouveau leurs conclusions. Le scrutin a eu lieu dimanche. On ne devrait finalement avoir une idée plus claire des résultats que demain. Alors, pourquoi arrêter le décompte brusquement ? Ça ne peut qu'inciter l'opposition à penser qu'il y a eu manipulation du scrutin. Et puis, il y a aussi le nombre de bulletins invalides, jusqu'à 3 millions de bulletins considérés comme nuls, selon certaines organisations non gouvernementales. Ça représente plus de 6% des suffrages exprimés. C'est beaucoup plus que lors des précédentes élections. C'est aussi un chiffre largement supérieur à la moyenne des scrutins qui ont été organisés dans les pays voisins de la Thaïlande. Là encore, l'opposition estime que ce n'est pas un hasard et une pétition circule signée par 700 000 personnes, pétition qui réclame tout simplement la dissolution de la commission électorale.
Radio, vous aviez une autre question concernant ces élections en Thaïlande ?
Oui, tout à fait. Le parti de la junte semble être en première position selon les premiers dépouillements sans pour autant avoir la majorité. Avec quel autre parti pourrait-il former une coalition ?
Alors effectivement, on ne connaît pas tous les résultats officiels, mais certains chiffres sont déjà connus. Contrairement à ce qu'annonçaient les sondages, donc le parti de la junte au pouvoir arrive en tête, mais sans obtenir la majorité. Avec qui pourrait-il former une coalition pour gouverner, comme le demande Radio ?
Alors, je vais revenir un tout petit instant sur ces chiffres. Effectivement, le parti de la junte semble avoir emporté le vote populaire. Il aurait une marge de 400 000 voix sur le premier parti d'opposition, ce qui veut dire, en théorie, que les militaires seraient en avance, mais pas assez pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des discussions pour former une coalition ? Oui, mais cette formation proche de l'armée ne veut pas évoquer ces négociations tant que les résultats officiels ne sont pas rendus publics. L'hypothèse la plus probable, c'est que les militaires tentent de courtiser un parti périphérique, le Bumjai Thai, la Fierté Thai en français, parti dont les candidats sont pour la plupart des hommes d'affaires importants qui cherchent à s'implanter en politique. Il y a un tout petit peu de suspense parce que le patron de ce parti, le Bumjai Thai, était dans le temps proche de l'opposition. On ne sait pas encore comment il va se positionner, mais s'il cède aux arguments des militaires, le chef de la junte, Han, est sûr d'être Premier ministre.
Vincent Souriau, tout juste rentré de Thaïlande où vous avez couvert ces élections législatives. Merci d'avoir été avec nous. Merci Radio pour votre question. Passez une très bonne journée à Dapaong. Nous allons accueillir un nouvel auditeur dans quelques instants, mais avant cela, je vous rappelle le sujet du débat qui commencera dans un tout petit peu plus de 20 minutes. Le nouveau gouvernement en Centrafrique. Faites-vous confiance à cette nouvelle équipe qui comprend plusieurs anciens chefs rebelles. Deux numéros pour participer au téléphone, le 339 693 693 70 ou WhatsApp 336 89 28 53 64. C'est la même chose si vous souhaitez nous poser une question sur l'actualité. Une question comme l'a fait Samadou. Bonjour.
Bonjour Anne.
On vous écoute.
Le ministre de la Défense par intérim, Patrick Sanahan, a annoncé lundi le déblocage d'$1 milliard pour la construction du mur frontalier avec le Mexique, promesse de campagne du président Donald Trump. Comme première question, comment expliquer ce financement alors que le Congrès avait refusé d'accorder le budget au président Trump ?
Alors pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Bonjour.
Bonjour.
Ce projet, c'est l'un des projets phares du président américain, l'occasion aussi d'un bras de fer depuis des mois avec les élus démocrates. Après avoir tenté une première fois de contourner le Congrès, Donald Trump a donc choisi une autre option. C'est son ministre de la Défense par intérim qui est monté au créneau et qui a donc mobilisé $1 milliard pour faire construire des routes, installer un éclairage public et surtout construire le fameux mur, plus de 5 mètres de haut, plus de 90 km de long. Comment a-t-il fait pour débloquer cette somme ?
Alors en effet, c'est une grande avancée pour Donald Trump, puisque comme vous disiez, c'est son projet phare. Et Patrick Shanahan s'est appuyé là sur l'article 10 du Code des États-Unis qui permet à l'armée de construire des routes, des barrières, l'éclairage, tout ce que vous citiez, pour empêcher le trafic de drogue à la frontière entre les deux pays. Donc en réalité, cet argent a déjà été voté par le Congrès et le génie américain de l'armée de terre peut réemployer cet argent pour quelque chose qui ressemble plus à une dépense civile qu'à une dépense militaire, mais c'est tout à fait autorisé dans les lois des États-Unis. Ceci étant dit, ça n'est que le début, puisque au nom d'autres lois, Donald Trump a bien l'intention de réorienter d'autres financements, que ce soit encore des financements militaires ou des finances qui dépendent de la sécurité nationale ou même du ministère du Trésor. Et en plus de cela, il a encore ajouté une demande de 8 milliards de dollars, 8 milliards et demi exactement, dans le nouveau budget de 2020. Donc le bras de fer est loin d'être terminé entre lui et les démocrates.
Jean-Éric Brana, vous restez avec nous. Notre auditeur Samadou a une autre question pour vous.
Quels sont les moyens dont dispose Trump pour obtenir les 7 milliards restants nécessaires pour la construction ?
Alors, on l'évoquait un petit peu, il y a effectivement plusieurs pistes qui sont envisagées par le président américain. Est-ce que Donald Trump est certain de disposer de moyens suffisants pour obtenir les milliards qui lui restent pour construire le mur ?
Ah mais moi, j'ai presque envie de dire à Samadou que s'il a un mur à 5 milliards, à mon avis, Donald Trump va l'acheter, puisque les projections actuellement évaluent ce mur entre 27 et 40, voire 70 milliards de dollars. La longueur du mur est quand même énorme. L'ensemble de la frontière fait 3006 kilomètres et il manque 1200 kilomètres encore à boucler s'il veut pouvoir clôturer l'ensemble de sa frontière. Le milliard dont on parlait tout à l'heure ne sert qu'à construire 91 kilomètres de distance. Vous voyez, donc il va falloir beaucoup de milliards pour pouvoir faire l'ensemble. Les moyens dont dispose Donald Trump, ça va être, encore une fois, de se tourner vers le Congrès et demander cet argent. Donc on peut répondre tout de suite qu'il n'arrivera jamais en tout cas avant la fin de son mandat, voire même d'un deuxième mandat, à boucler l'ensemble de la frontière.
Et on peut s'attendre à de nouveaux blocages dans la poursuite de ce bras de fer, donc entre les élus démocrates et le président américain ?
En réalité, je ne le pense pas, parce que le gros de la lutte politique est passé, et maintenant il est clair dans la tête de tous les Américains que Donald Trump a fait tout ce qu'il pouvait pour arriver à débloquer l'argent. Maintenant on va rentrer en campagne électorale avec le shutdown derrière nous qui a laissé beaucoup de traces. Tout ça est dans les têtes et je ne crois pas que Donald Trump va recevoir le moindre reproche de la part des électeurs pour cette partie-là. Il peut donc tranquillement se contenter de rhétorique et de parler fort jusqu'à la fin de son mandat sur cette question.
Est-ce qu'on peut envisager que un jour il abandonne ce projet ou bien ce projet de mur à la frontière avec le Mexique est trop important pour que le président américain y renonce ?
Non, je ne pense pas qu'il l'abandonnera, parce que c'est quand même dans l'ossature générale de la sécurité nationale qui est très importante pour lui. Dans l'idée d'une Amérique forte, il y a l'idée de renforcer la frontière. Il a expliqué pendant sa campagne que les États-nations se reconnaissaient à travers leurs frontières et que cette frontière devait être particulièrement marquée avec le Sud, d'où venaient la plupart des problèmes. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, donc l'abandonner, ce serait se déjuger de tout ce qu'il a dit, ça n'arrivera certainement pas.
Merci beaucoup Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Je précise que vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur Donald Trump intitulé « Et s'il gagnait encore ?» qui sortira bientôt aux éditions VA Presse. Merci Samadou d'avoir été avec nous. Direction maintenant le Bénin où nous attend Mahomed. Bonjour.
Bonjour. T'as plutôt le Burkina.
On vous écoute, vous nous appelez de Ouagadougou.
Voilà, c'est ça.
Excusez-moi, alors, c'était pas, vous ne nous appeliez pas du Bénin, je me suis trompé, vous nous appelez du Burkina Faso.
Tout à fait. Alors, il y a deux jours de cela, nous avons appris que quatre chercheurs et le directeur de rédaction de la revue scientifique Afrique contemporaine ont démissionné suite à la suspension par l'AFD de la publication d'un numéro sur le Mali. Alors, en tant que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la recherche, je me suis posé la question suivante. La première, est-ce que l'AFD avait le droit de suspendre la publication du numéro alors que celui-ci a été validé par le comité scientifique de la revue? que contenait donc ce dossier pour que l'AFD invoque des motifs réfutationnels.
Alors effectivement, oui, vous aviez une deuxième question, excusez-moi.
Voilà. La deuxième question, c'est de savoir si on peut s'attendre à une publication de ces articles-là dans une autre revue par les chercheurs démissionnaires.
Pour vous répondre, Mohamed, Clémentine Pavlotsky, journaliste au Service Afrique, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi cette affaire donc ces derniers jours. L'AFD, l'Agence française de développement, est-elle autorisée à suspendre une publication qui a déjà passé toutes les vérifications scientifiques?
Alors, dans la mesure où l'AFD édite et finance en grande partie la revue Afrique contemporaine, rien ne l'empêche, sur le plan purement légal, effectivement, d'exercer un droit de regard sur ce qui est publié. Le problème qui se pose avec cette affaire, il est plutôt d'ordre déontologique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'AFD a toujours présenté Afrique contemporaine à ses lecteurs comme une revue scientifique. Cela suppose que les chercheurs qui écrivent dans cette revue jouissent comme n'importe quel autre chercheur d'une indépendance académique totale. Ils sont censés y exposer le fruit de leurs recherches sans aucune pression politique. Et parfois, les conclusions auxquelles arrivent ces scientifiques ne vont pas dans le sens des intérêts de l'État, en l'occurrence de la France. Mais ce n'est évidemment pas une raison suffisante pour suspendre la publication d'un dossier.
Mais qu'est-ce qui, dans ce dossier sur le Mali, a pu conduire l'AFD à invoquer ces fameux motifs réputationnels?
Alors, c'est un dossier qui devait s'intituler « Mali, la paix introuvable », avec des articles sur les groupes djihadistes, sur les limites de la lutte contre le terrorisme ou encore la réforme du système de sécurité malien. Maintenant, sur ce qui a posé problème, on a deux versions qui s'affrontent. La version officielle, celle de l'AFD, c'est qu'il a effectivement été demandé d'apporter des modifications mineures sur certains textes. Thomas Mélogno, le directeur de publication de la revue Afrique contemporaine, explique que certains articles pouvaient être jugés polémiques parce qu'ils pouvaient être interprétés comme un soutien à l'opposition ou à la majorité. Et donc, d'après lui, il aurait été demandé d'introduire de nouveaux articles scientifiques dans le dossier avec des points de vue contradictoires, l'objectif étant toujours, selon le directeur de publication, de publier un dossier le plus exhaustif, possible. Ça, c'est ce que dit l'AFD.
Thomas Mélogno, je le rappelle, qui est ancien directeur de la cellule Afrique de l'Élysée, qui était notamment au moment où la France a lancé son intervention au Mali. De l'autre côté, l'ancien rédacteur en chef Marc-Antoine Pérouse de Monclos, des membres du comité scientifique de la revue, des auteurs, expriment une position nettement différente. Eux parlent clairement d'une décision de nature politique.
Effectivement, d'après eux, l'ensemble du dossier avait été validé par le comité scientifique et on leur aurait d'abord dit que celui-ci présentait effectivement un risque réputationnel et diffamatoire. Tous disent ne pas avoir vraiment compris cet argument. Il raconte qu'on leur a ensuite dit que certains articles présentaient des faiblesses sur le plan scientifique, mais pour eux, pas de doute. La suspension de la publication de ce dossier est politique, ce que dément formellement la direction d'Afrique contemporaine. Mais il faut quand même rappeler que le Mali, c'est un sujet sensible. La France y est présente militairement à travers l'opération Barkhane et économiquement via sa politique d'aide au développement. Bref, la France a des intérêts au Mali. Et pour tous ces chercheurs, c'est ce qui expliquerait pourquoi la publication de leur dossier a été suspendue. Plusieurs articles, disent-ils, pouvaient faire part d'analyses n'allant pas dans le sens de l'exécutif.
Alors Clémentine, notre auditeur Mohamed se demandait si les articles en question seraient publiés ailleurs. Est-ce que c'est prévu?
Alors oui, certains articles ont déjà commencé à être publiés ailleurs. C'est le cas notamment d'un article écrit par Bruno Charbonneau, professeur au Canada, sur les limites de l'acharnement contre-terroriste au Mali. Il a été publié hier dans Le Monde Afrique. D'autres articles sur la réforme de la sécurité ou les violences dans le centre du pays seront, eux, publiés dans la Revue canadienne des études africaines, donc à suivre.
Clémentine Pavlotsky, merci d'être venue répondre aux questions de Mohamed. Vous restez avec nous dans un instant, toute l'actualité africaine et juste après nous lancerons le débat sur le nouveau gouvernement en Centrafrique. Sur les 39 ministres, 8 sont des représentants des groupes armés. Avez-vous confiance en cette nouvelle équipe? Quel avenir pour la paix et pour la justice? Nous attendons vos messages et vos appels. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.